Riviera ferraille.
La série The Haunting of Hill House et le jeu vidéo Until Dawn, ce sont nos recos du jour dans les séances du bureau.
Bonjour à tous, bienvenue dans les séances du bureau, je suis Charles.
Et je suis Mathias, bienvenue dans ce nouveau format d'émission. Est-ce que Charles, tu peux dire à nos auditeurs qu'est-ce que c'est les séances du bureau ?
Eh bien, ça part tout simplement du fait que, au Bureau des Mystères, on adore mater des films d'horreur, on adore mater des séries d'horreur, on adore jouer à des jeux vidéo horrifiques. Bref, vous l'avez compris, si vous nous suivez notamment sur les réseaux sociaux et si vous nous suivez en fait depuis nos débuts dans le podcast, hein, depuis Inspiré de faits réels, on vous parlait déjà de films d'horreur. Eh bien, on s'est dit que ici, ce serait aussi un petit peu notre lieu, puisque vous avez dû vous en rendre compte, Inspiré de faits réels est en pause depuis maintenant un petit moment, mais on avait quand même envie de continuer à vous parler de séries d'horreur, vous parler de films d'horreur. Eh bien, on s'est dit que les séances du bureau, ça allait être notre petit endroit, notre petite pause café à nous au Bureau des Mystères pour discuter séries et films.
On s'est fait un petit coin cosy, là. On est bien installé avec le petit café pour parler aujourd'hui de The Haunting of Hill House, série Netflix réalisée par Mike Flanagan, qu'on a beaucoup aimé, n'est-ce pas, Charles ?
Ouais, exactement. Alors, c'est disponible. C'est une série qui a fait parler d'elle pas mal en octobre pour différents trucs sur lesquels on reviendra, notamment un plan séquence
tout à magnifique.
Fait d'anthologie. Et avant de vous en parler, nous allons d'abord, pour vous mettre dans l'ambiance, vous passer un extrait de la bande-annonce.
Maintenant, vous allez faire un bon dodo.
Mais si jamais j'avais un mauvais rêve?
Je suis sûre qu'on peut surmonter n'importe quel rêve.
Et si jamais je fais un rêve où tu nous envoies dans un endroit tout noir?
Un endroit horrible.
Et si ça me rendait tellement triste et que j'avais tellement peur d'être dans le noir que je me mettais à prendre du poison et que je m'empoisonnais comme ça pour le reste de ma vie?
Et puis mon cœur se casse en deux morceaux et je peux plus rien ressentir de bien. Qu'à la fin, je supporterai plus. Alors il faut que je meure. Et je me retrouve sur une table en fer, avec ma bouche qui veut plus s'ouvrir. Est-ce que tu viendrais nous réveiller si on faisait un rêve comme ça ?
Et donc, The Haunting of Hill House, ça met en scène, en fait, une famille qui est en proie à un deuil, et qui va essayer de se reconstruire, et qui du coup va passer par différentes phases, donc c'est sur 10 épisodes, et nous en fait on a beaucoup aimé, si tu veux nous dire ce que tu as aimé, Mathias, par exemple, dans cette série.
Alors, énormément de choses, on l'a évoqué vite fait, c'est vrai qu'il y a notamment un épisode qui est en fait un enchaînement de plans-séquences, donc qui monte, qui en fait, qui symbolise vraiment toute la série, déjà sur le côté technique, c'est une série qui est techniquement très très bien faite, émotionnellement aussi, c'est un épisode qui est extrêmement émouvant, comme le reste de la série, et c'est aussi, voilà, toute la série en fait se fait par des jeux de miroir entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui, donc on a comme ça un espèce de système d'écho entre les époques qui se fait tout au long de la série, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un des points que j'ai préféré, le jeu d'acteur est top, et c'est un peu l'aboutissement pour moi, de la carrière de Mike Flanagan actuellement, qu'on suit depuis quelques années, parce qu'il a ça fait quand même plusieurs années qu'il fait des films sur Netflix et ailleurs, hein. On pourra peut-être revenir sur la filmo de Mike Flanagan tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qu'on suit depuis quelques années. Je trouve qu'il y a une forme d'aboutissement dans son travail avec cette série-là et ça m'a fait beaucoup plaisir.
Beaucoup plaisir. Eh ben écoute,
ouais, très plaisir.
Moi aussi, ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé, j'ai bingé en fait la série comme rarement. Je me suis fait 5 épisodes un soir et 5 épisodes le soir suivant, ce qui est dire mon niveau de fanboy sur cette série. Alors il y a plein de trucs que j'ai beaucoup aimé aussi. Notamment, c'est vrai, le jeu de certains acteurs et de certaines actrices qui est assez chouette. On sent qu'ils étaient à la fois tous assez impliqués et en plus, comme tu disais, il y a un espèce de jeu de miroir entre plusieurs époques et il y a aussi des enfants et les enfants jouent méga bien.
Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais, que les enfants jouent très très bien, ils sont tous bluffants, ouais c'est vrai. Certains ont été vus dans d'autres films d'ailleurs de Mike Flanagan, je crois qu'il y a une des filles qui a été vue dans le film Ouija les origines, il me semble qu'il y en a une qui joue dedans et qui était déjà très bien dans Ouija les origines.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est la petite. Bah, c'est la grande sœur.
Oui, qui est
qui
petit,
joue.
c'est la petite Shirley, en fait.
C'est la petite Shirley, ouais, voilà, exactement. Ils sont plusieurs frères et sœurs, en fait, et c'est vrai que. Bah, on les voit, hein, ils sont tous. Ils ont tous été plus ou moins dans des films de Mike Flanagan avant.
Bah d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, fun fact, la petite Shirley, elle joue donc la fille de l'actrice qui joue Shirley adulte dans le film
Ouais,
Déjà les origines.
c'est
Donc,
vrai.
encore une fois, des jeux avec la famille, quoi.
Il aime bien faire tourner les mêmes personnes, et notamment sa femme que j'ai vue. Alors j'avoue que c'est peut-être l'actrice qui m'a posé le plus de soucis dans
Kate Siegel?
The Haunting of Hill House. Elle était dans Hush.
Dans Hush, elle était très très bien. Un très bon
Ouais,
film
dans Hush,
d'ailleurs,
elle
Hush,
était
qu'on peut
bien.
recommander au passage, hein,
Ouais.
qui a un départ, enfin qui a un postulat de départ qui est plutôt intéressant, d'une femme sourde-muette qui se fait attaquer dans sa maison par un mystérieux agresseur. Et le concept est tenu du début à la fin. C'est vraiment un très bon film, voilà,
Ouais.
qui
Ouais,
se regarde très
c'est un
bien.
film à concept. Et d'ailleurs, bah, Mike Flanagan, il aime bien les films à concept, hein, en général.
Oui.
Parce que le dernier qui est sorti sur Netflix, tu me rappelles son nom, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié le nom.
Avec Carla Gugino aussi?
Ouais.
Oui, c'était Jesse, qui est
Jesse, ouais.
voilà, une adaptation du livre Gerald's Game, donc Jesse en français de Stephen King. Oui, où c'est Carla Gugino qui est attachée à un lit,
Il y a un
qui
petit jeu
va
BDSM.
potentiellement mourir.
Il y a un petit jeu. Tout ça part d'un petit jeu BDSM. Et apparemment, pour soi-disant relancer un couple de cinquantenaires qui bat un petit peu de l'aile. Sauf qu'en fait, déjà, on se rend compte que c'est à moitié consenti. Notamment par Carla Gugino, du coup, qui est pas forcément très très à l'aise. Il va y avoir un petit twist et elle va rester accrochée, la pauvre. Pendant tout le film, et bah, c'est encore une fois un film à concept, c'est-à-dire qu'il y a une idée de base qui est assez forte, et après
C'est-à-dire
il y a une. Comment se
comment s'en
défaire.
sortir quand on est attaché par des menottes à un lit toute seule dans une maison
Ouais,
perdue où il n'y a personne?
et qu'on peut pas tout casser du coup, hein. C'est pas
Non.
un petit lit, c'est pas des petites menottes, c'est des vraies menottes avec du vrai bois massif. Et comment on fait pour s'en sortir? Et ben, c'est un Carla Gugino vous fait un petit tutoriel. Un petit tutoriel parfois un petit peu douloureux pour
Carla
sortir de
Gugino,
cette
que
situation.
j'ai été très heureux de revoir du coup dans Haunting of Hill House, puisque c'est elle qui joue la mère de la famille.
Ouais.
Donc, et qui a une performance dans cette série qui est très intéressante. Justement, elle est toujours à la frontière, on ne sait pas si la personne est folle, on ne sait, voilà, c'est toujours, je trouve qu'elle est toujours sur le fil dans toute la série. C'est aussi une des choses que j'ai beaucoup aimé dedans. On parlait de jeu des acteurs, elle particulièrement, je trouve qu'elle apporte ce malaise parfois dans certaines scènes qui est
Ouais, puis c'est bien
qui est
écrit. En
assez bien.
fait, certes, les acteurs et les actrices jouent bien, mais aussi les personnages sont vachement bien écrits. Et ils sont tous écrits de manière assez différente, alors qu'ils vivent tous une situation similaire. Et ça, je trouve ça assez brillant. Par exemple, vous allez avoir un frère qui va. On va voir, il va tomber dans la drogue, en fait. Parce que tous, ils vivent le deuil de manière vraiment différente. Il y en a qui le gèrent de manière très froide. Il y en a qui essaient de rester rationnels. Il y en a qui vont tomber plus ou moins, du coup, dans le coup de Ah, il y avait des esprits. Et en fait, il va y avoir un conflit au sein de la famille vis-à-vis du statut fantastique ou non de la disparition des personnes et ça c'est vraiment malin et du coup je trouve que les personnages déjà ils ont tous une personnalité propre c'est-à-dire qu'on voit comment se dessine le conflit entre les personnages et en plus c'est vraiment bien interprété vraiment bien exécuté par ouais un casting alors moi Kate Siegel je suis un petit peu moins fan j'avoue la femme de Mike Flanagan il a tendance à la mettre dans pas mal de films t'as dit du coup Hush où c'est vrai qu'elle tient le film là pour le coup il y a rien à dire elle joue vraiment bien et elle tient le film de bout en bout mais je trouve que dans The Haunting of Hill House parfois elle c'est pas le personnage est intéressant pourtant le personnage est même très très bien mais je trouve que elle a tendance à sortir un petit peu de en termes d'interprétation elle est pas forcément au niveau disons de tous les autres acteurs et actrices.
Je l'ai pas ressenti, je me suis peut-être laissé plus embarquer du coup par le personnage. C'est vrai que j'ai pas vu la performance d'actrice, j'ai vu
Ouais.
directement le personnage. Et le personnage est tellement intéressant, c'est un des plus fouillés de la série. C'est aussi, enfin, vous découvrirez en la regardant, on va pas spoiler, mais il y a pas mal de choses qui se passent autour de ce personnage-là. Notamment une des scènes les plus émouvantes, j'allais dire du film, de la série. Mais c'est vrai qu'en même temps, la frontière est de plus en plus floue entre les séries et les films, et là c'est particulièrement vrai avec cette série-là. On a un peu l'impression de voir un long film de 10 heures à peu près, puisque les épisodes durent entre 50 minutes et 1h10, donc c'est des épisodes assez longs hein, quand même. Et mais ça se binge vraiment. Ça se regarde. Toi, j'allais dire d'une traite, toi tu l'as fait en deux fois, parce que c'est vrai que d'une traite c'est un peu compliqué. Mais parce qu'il y a quand même 10 heures à regarder. Mais ça se fait en deux soirées quand on est vraiment happé dans l'histoire. Quoi. Moi, c'est ce qui s'est passé aussi. J'ai dû le regarder en trois soirs parce que j'étais un peu claqué. Mais ça se regarde. T'as envie de le voir d'une traite en tout cas. Tu veux savoir, tu t'attaches très vite au personnage. Que tu apprends à découvrir au fur et à mesure de la série, d'ailleurs, parce que chaque épisode, au début, chaque épisode te présente un personnage de la famille.
Et donc, s'attache en particulier à un personnage, jusqu'à ce qu'il y ait un basculement.
C'est ça, tu les découvres un par un, et là, tu arrives à la moitié de la série où tu les connais déjà tous plutôt bien, et là, tu es vraiment pris dans le truc, tu veux savoir ce qui leur arrive, tu t'es vraiment attaché, c'est un peu comme si tu faisais partie de cette famille-là à partir de la moitié de la série, quoi.
C'est ça. D'ailleurs... Si je devais reprocher un petit truc à la série, la mise en place est un peu longuette. C'est-à-dire qu'ils hésitent, ah, est-ce que c'est paranormal, est-ce que c'est pas paranormal. À un moment donné, tu te dis, ouais, bon, quand même, tu vois des trucs, est-ce que tu te poses vraiment la question. Puis, il y a cette présentation des persos qui est un poil longue. Et il y a un moment de basculement qui tourne autour de cet épisode avec le méga plan séquence qui, du coup, a pas mal fait parler. J'ai vu beaucoup de gens le discuter sur Twitter ou partager des bouts de making-of. Et c'est vrai qu'il est vraiment ouf parce que non seulement on navigue sur... le but du plan séquence, c'est qu'on navigue dans un temps normalement qui se déroule en temps réel et un espace clos. Et là, en fait, on passe dans le même plan séquence entre différentes époques et c'est méga bien fait, quoi.
D'ailleurs, on vous conseille d'aller lire le thread Twitter qu'a fait Mike Flanagan à ce sujet-là. Il a fait tout un long thread Twitter dans lequel il explique comment a été fait cet épisode qui est, je le rappelle, composé de 5 plans séquences très longs, dont un qui fait, je crois, 17 minutes, ce qui est énorme à mettre en place, c'est monstrueux. Et il expliquait que dès le début de la série, dès le script, en fait, ça a été conçu comme ça, et dès la conception des décors, et c'est grâce, en fait, à ça, qu'ils ont pu te faire te déplacer dans le temps et dans l'espace, parce qu'on passe d'un salon mortuaire à Hill House, dans le même plan séquence, ce qui est quand même une performance machin, parce que, en fait, dès le début, sur les plans du studio, ils ont dit, il faut que là, cet emplacement, on passe du salon mortuaire à Hill House, sans la moindre transition, qu'on ait vraiment l'impression que ce soit immédiat, quoi, que ce soit un petit peu le même bâtiment. Et ça donne cette construction labyrinthique un petit peu qu'on a au salon mortuaire. Et c'est hyper bien réussi, quoi. Donc c'est vraiment... En fait, depuis le début, Mike Flanagan avait conçu sa série autour de cet épisode-là, qui montre toutes les thématiques, qui montre tous les liens dans la famille, l'éclatement de la cellule familiale aussi. C'est l'épisode où, je crois, la famille est le plus éclatée dans le présent et à la fois le plus unie dans le passé. Donc il y a un espèce de...
C'est vrai.
C'est un miroir déformant. On a d'un côté, où ils sont très unis dans le passé et complètement éclatés au point d'avoir des discours... qui sont extrêmement émouvants, d'ailleurs, au milieu de l'épisode 6. L'épisode 6, c'est vraiment l'épisode charnière.
On alterne entre des dialogues qui sont, en effet, en opposition totale entre différentes époques. Des dialogues au sein d'une même famille qui sont en opposition totale. Et c'est vrai que le plan séquence, d'ailleurs, il a le malheur, disons, de flouer un petit peu tout le reste, c'est-à-dire de masquer un petit peu tout le reste. C'est-à-dire que le plan séquence a une telle importance dans les discussions qu'on a eues sur la série que au final c'est le moment de basculement et on sent que tout a été fait autour de ça, mais du coup il y a peut-être 2-3 moments un petit peu de mou avant et après ce plan séquence là, ce qui n'enlève rien aux qualités de la série par ailleurs.
D'ailleurs, c'est vrai que là, c'est peut-être important de le préciser, la manière dont on en parle là, on a l'impression que l'épisode 6 est vraiment un climax et qu'il se passe rien d'autre après et que le reste est nul. Mais en fait, non, les épisodes 7, 8, 9, 10 sont hyper intéressants aussi. Notamment, l'épisode 8 m'a donné un de mes plus gros flips de l'année, je crois.
Le jumpscare
Oui, alors c'est une série qui utilise très peu les jumpscares, mais voilà.
Il y en a quelques-uns, je suis pas d'accord, il y en a quelques-uns quand même.
Mais celui-là est particulièrement efficace.
Ouais.
On vous dit pas quand, vous verrez. Vous ferez à voir aussi.
Et puis même, de toute façon, même si vous le savez, il s'est passé un truc assez rigolo. J'ai vécu ce jumpscare donc comme rarement. J'ai sursauté comme rarement en regardant la série. Je me suis dit, waouh, c'est pas possible, ça vient d'où ? J'ai repassé. Je suis retourné un petit peu en arrière pour voir, pour revoir le jumpscare. Et ben même la deuxième fois, en sachant qu'il allait arriver, j'ai encore sursauté. Donc il a très très bien fonctionné ce jumpscare sur moi. J'avoue que total.
Moi je t'avais raconté, je le regardais sur mon téléphone parce que j'ai un gros téléphone, ce qu'on appelle une espèce de phablette. Donc je regardais mon épisode dessus tranquillement dans mon lit. J'ai perdu mon téléphone. Mon téléphone m'a lâché des mains. Et je me suis retenu très fort de hurler parce que madame était en train de dormir à côté de moi, donc je ne voulais pas la réveiller non plus. Je me suis retenu très très fort de hurler, mon téléphone, je l'ai vraiment lâché des mains, quoi. Donc voilà, je pense qu'on va conclure nos avis sur Haunting of Hill House là-dessus. Vous l'aurez compris, on vous le conseille évidemment beaucoup. C'est une série que vous avez beaucoup aimée, c'est un gros coup de cœur de notre part à tous les deux.
Perso, j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai qu'il y a deux, trois trucs qui passent, qui sont pas forcément nécessairement mauvais, mais qui du coup passent un petit peu en dessous du radar, comme par exemple les musiques, tu vois.
Oui, on trouve les musiques,
elles ont, on a des petites mélodies au piano qui accompagnent la plupart des scènes. Il y en a beaucoup qui sont soit très classiques, genre on a l'impression littéralement dans sa tête qu'on connaît la prochaine note qui va arriver, les musiques sont pas forcément très très inventives, d'ailleurs Mike Flanagan fait souvent appel aux mêmes personnes pour les musiques de ses films et de la série aussi, la Haunting of Hill House, et ça se ressent, c'est-à-dire que le seul fois où j'ai vraiment kiffé les musiques d'un film de Mike Flanagan, c'était, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié son nom.
Before I Wake, peut-être.
Before I Wake, voilà, exactement.
Je crois
merci.
Que tu avais bien aimé ce film, Ne t'endors pas, en français, qui est dispo sur Netflix aussi.
Qui est dispo sur Netflix et qui, à mon sens, est le meilleur film de Mike Flanagan. Je sais que toi,
alors,
c'est pas totalement ton avis.
Je ne suis pas d'accord.
Voilà, c'est ça. C'est pas totalement ton avis, mais pour moi, c'est son meilleur film parce qu'il y a des musiques, du coup, qui sont reprises à Danny Elfman et on entend tout de suite la différence et ça donne un côté féerique vraiment chouette. J'aime bien les personnages grosso modo de Before I Wake parce qu'ils sont en tension, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont pris entre des choses bien et mal et des volontés un peu parfois égoïstes que je trouve assez intéressantes avec une histoire que perso j'aime beaucoup et qui reprenait déjà le thème de la famille qu'il y avait déjà dans Oculus.
D'ailleurs c'est ce que j'allais dire, je disais que j'étais pas d'accord avec toi sur moi ce n'est pas le meilleur film de Mike Flanagan, ne t'endors pas, mais c'est des avis personnels. Moi au contraire je vous conseille justement Oculus. The Mirror, ça dépend des versions, des fois il s'appelle Oculus, des fois The Mirror, je sais pas trop comment. Oculus en français.
Ouais, je sais plus, ouais.
Qui est un film avec Karen Gillian, qu'on connaît surtout pour avoir joué dans Doctor Who, et là plus récemment dans Les Gardiens de la Galaxie, mais qui porte ce film-là, qui est vachement bien. C'est un des premiers longs-métrages de Mike Flanagan, et on voit déjà les futures thématiques qu'il va aborder.
Ah, ouais, complètement. Et puis même certains famille. Procédés, les échos, les jumps comme ça, les ellipses entre passé et futur, et les moments où on enchaîne dans une même scène, c'est-à-dire qu'il y a un champ et boum, un contre-champ qui est dans une autre époque, et bah là on l'a déjà dans Oculus. Et ça c'est assez chouette, et on voit, mais du coup c'est vrai qu'on boucle avec ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que The Haunting of Hill House a un espèce d'effet best-of de ce qu'a fait Mike Flanagan. Donc rien que pour ça, c'est une bonne entrée dans sa filmo, c'est une bonne entrée dans son œuvre, et après peut-être aller approfondir avec.
Et ça donne très envie de voir ce qu'il va faire par la suite, parce que là il vient de terminer le tournage de Doctor Sleep, la suite de Shining, une deuxième adaptation de Stephen King, dont Stephen King est l'auteur préféré de Mike Flanagan, il est ultra fan de Stephen King, donc je pense qu'il a dû rendre une copie plutôt sympa, donc moi j'ai hâte de voir ça.
Et bah écoute, on passe à notre deuxième partie.
Allez, la deuxième partie.
Alors, notre deuxième partie, puisque là, on vous a parlé de quelque chose qui avait un petit peu trait à l'actualité, parce que oui, c'est un premier épisode, donc on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on explique un tout petit peu le concept. On vous parle d'une série, d'un film qui est en lien avec l'actualité, avec quelque chose qui s'est déroulé dans le mois ou les mois précédents. Et notre deuxième partie, qui est totalement reco, totalement recommandation, où on vous parle de quelque chose qu'on a bien aimé, un jeu vidéo, un livre, un podcast, une série, un film qu'on a bien aimé. Le seul point commun, la seule thématique, c'est que ce soit lié à l'horreur, et dans cette deuxième partie recommandation, on va vous parler d'un jeu vidéo qu'on a fait ensemble, Mathias.
Oui, et que j'ai très envie qu'on refasse ensemble d'ailleurs, c'est Until Dawn.
Hey Josh, on n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non?
Ouais, je vais allumer la chaudière, elle est au sous-sol.
Wow, c'était quoi ça?
Mais attends, t'as entendu comme moi, là? Bouge pas.
Quoi?
Il y a un truc derrière toi.
Qu'est-ce que vous leur avez fait?
Until Dawn sur PS4, exclusivité PS4, hein, si je me souviens bien, qui est un excellent jeu qui vous propose de vivre un slasher. Alors c'est un jeu globalement narratif, hein, c'est-à-dire que c'est des QTE et des choix principalement. En fait, vous allez incarner une bande de jeunes qui va décider d'aller passer une soirée dans un chalet au milieu de la neige. Et ça fait peur, puisqu'en fait, comme dans n'importe quel slasher, ils y vont pour une raison un peu prétexte. Là, en gros, au prologue, deux personnes meurent, hein, je vous dis pas qui, mais en gros, la bande de jeunes décide d'y aller pour les 1 an de cet événement tragique, et un petit peu de conjurer le sort en passant une soirée entre amis là-bas.
Par le
plutôt
pouvoir
sympa.
De l'amitié.
Exactement. Sauf qu'on va s'apercevoir très vite que ça va pas très très bien dans le groupe, hein, que les amitiés sont plutôt éclatées, des personnes se détestent au sein de ce groupe-là. Voilà, donc on va jouer un petit peu, il va y avoir beaucoup de dialogues, on va essayer d'apaiser ou de nourrir, hein, c'est comme vous voulez, les tensions entre les personnages, et surtout essayer de faire en sorte que tout le monde survive à cette soirée où il va y avoir énormément de dangers.
Ouais. Alors c'est développé par Supermassive Games qui... à un autre projet de jeu, cette fois d'anthologie horrifique, qui va sortir sur PS4 et Xbox One, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps. Et ils avaient fait donc ce jeu qui était sorti en 2015, si je dis pas de bêtises, et qu'on avait fait, nous, sur, sur ton canapé, puisque c'est un jeu solo, c'est un jeu 100% solo, mais qui a la particularité d'être particulièrement plaisant si on joue à plusieurs et qu'on se passe la manette, parce que, comme tu l'as dit, c'est un jeu, alors on a tendance à dire narratif. C'est un terme un tout petit peu large, grosso modo pour les personnes qui ont déjà joué à des jeux de David Cage, c'est dans cette veine-là. C'est-à-dire que c'est pas le skill qui va prévaloir, c'est pas le gameplay qui sera l'atout majeur de ce jeu.
J'ai réussi à sauver presque tout le monde et je suis une brêle en jeu vidéo, donc
voilà.
Donc voilà, c'est pas le skill qui compte.
Et c'est plutôt sur en effet des choix dans les dialogues, dans les actions, dans la réussite ou non des QTE qui vont amener à des conséquences par la suite et amener à différentes fins. Il y a en tout 8 amis dans ce chalet, dans cette histoire, et à la fin du jeu, vous pourrez avoir sauvé tout le monde comme n'avoir sauvé que vous-même. Et on avait sauvé quasiment tout le monde. Hein.
Quasiment tout le monde, sauf à part une erreur à la con que j'ai faite sur un des personnages qui fait qu'on n'a pas réussi à le sauver. Voilà, ouais, j'ai raté un QTE, on va pas, voilà, c'est bon, ça arrive. J'ai raté un QTE, le personnage est mort dans notre souffrance, je suis désolé. Voilà. Et, mais par contre, je crois qu'on a perdu que 2 personnes sur les 8, ce qui est plutôt pas mal pour une première partie. Hein, on va pas se... Ça va.
Ouais, ouais. Pas mal. Puis c'est un jeu qui, du coup, a. Alors, il a une assez faible rejouabilité, parce que, bah, du coup, vous allez retomber sur les mêmes choix. Mais, en revanche, voilà, vous allez connaître les twists principaux. Mais, en revanche, il y a des séquences auxquelles on a accès que par certains de nos choix. Et il y a vraiment des choses qu'on ne voit que si on fait certains choix. C'est assez intéressant. Et surtout, c'est un bon jeu. C'est assez rare, ça, je trouve. C'est un bon jeu qui se joue à plusieurs alors qu'on est en solo. Se passer la manette sur le canapé, et ben on a l'impression de regarder un slasher. Et
exactement.
Pour les personnes qui aiment les slashers, et ben c'est assez, ça reste assez chouette. C'est pas de la folie en termes de jeu, on s'amuse pas comme un foufou, mais à regarder, ça reste très plaisant. Déjà parce que c'est vraiment très cinématographique, c'est assez réussi sur ce plan-là. Mais en plus parce que du coup, on peut se passer la manette, jouer différents personnages, puisqu'on incarne différents personnages au fil de l'aventure, on peut se passer la manette au moment du changement de personnage. Et je sais pas si tu te souviens, mais il y a des passages chez le psy. Il y a des interludes chez le psy. Et en fait, le psy, il a une particularité, c'est un peu chelou. Il nous demande de faire des choix entre des choses qui nous font peur, des choses qui nous inquiètent et des choses qui nous inquiètent pas. Et en fait, eh ben, ça aussi, ces choix-là vont avoir une influence sur le reste de l'aventure. C'est-à-dire que, suivant les choix que vous faites à ce moment-là, eh ben, vous aurez des apparitions qui vont vous faire plus ou moins flipper en fonction de ce que vous aurez dit chez le psy. Donc, c'est un procédé qui est assez chouette. Il y a différentes choses qui sont prises en compte. Et, ouais, c'est un bon jeu à faire dans une soirée entre amis si vous voulez vous faire flipper, mais qu'en même temps vous avez envie, c'est un peu un film sur lequel vous avez la main, quoi.
Ben c'est ça ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est vraiment un slasher interactif, et c'est pour ça que c'est aussi agréable à suivre même quand tu joues pas, quand tu as la personne faire, parce que tu te retrouves dans la position où, tu sais, quand on est devant un film d'horreur, tu fais va pas par là, va là-bas. Ouais. Bah là, en fait, ton pote qui est en train de jouer peut le faire, donc,
ouais.
En l'occurrence.
Bah, moyennement, parce que c'est quand même méga scripté.
Oui, les choix sont assez limités.
Et du fait que ce soit scripté, par contre, tu as la main sur les QTE, par contre. Là, tu peux t'en sortir sur les QTE qui vont te faire survivre ou pas. Donc voilà, ça s'appelle Until Dawn, c'est développé par Supermassive Games, c'est disponible sur PS4, vous le trouverez neuf aux alentours d'une trentaine d'euros et d'occasion à moins de 15 euros sans trop de problèmes. Ça se joue tout seul, mais c'est assez sympa pour les soirées entre amis. En plus, ça se passe, on l'a dit, hein, ça se passe dans la neige, en hiver, dans la montagne.
C'est le moment,
là. Là, c'est un bon jeu de décembre. C'est tellement un bon jeu de décembre que j'ai décidé de le twitcher.
Oh, trop bien.
Je vais le twitcher. Je me suis dit que ça ferait un bon jeu de Noël, un bon jeu de décembre. Donc voilà, j'ai une petite chaîne Twitch, hein, pour les personnes qui ne savent pas, c'est twitch.tv/oddparamonia, hein. Oddparamonia. J'ai encore une fois réussi du premier coup. N'hésitez pas, hein, à venir voir ce Twitch de Until Dawn.
Tu vas le faire en entier ?
Je pense que je vais le faire en entier, ouais.
Alors, ça veut dire que tu vas commencer à 20h comme dans le jeu ? Parce que le jeu commence à 20h, je crois, le scénario.
Ouais, mais alors, je sais pas, je pense que je vais le faire en 2-3 soirées.
Ah oui, non, tu vas pas le faire, ouais,
ah oui,
traite. Parce que nous, on avait essayé de faire ça. Quand on y avait joué, on l'avait lancé à 20h, qui est en fait au début du script du jeu, ouais. Il est 20h quand le personnage arrive devant les grilles du chalet. Et ensuite, ça se termine aux alentours de quoi, 5h du mat, truc comme ça.
Until Dawn, jusqu'à l'aube.
C'est ça. Et on avait tenu, je crois, jusqu'à 3h, 4h du matin avant de tomber de fatigue.
Ouais, c'est ça, on l'avait fait en deux fois, nous. Hein.
Ouais, mais en même temps, on avait bu en même temps, donc c'est compliqué de tenir.
Ouais, c'est
coup,
vrai que. Je... Avait...
Et pourtant, avec modération, c'est ça qui est fou.
Ouais.
Mais bon, ça fait.
Mais donc, ouais, je vais, tu vois, tentative podcast, Twitch, transmédia, les jeux dont je vais parler et dont on va parler en recommandation des séances du bureau. Dans la mesure du possible, j'essaierai de les twitcher. Comme ça, si vous avez envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble, et bon, vous pourrez passer sur la chaîne. Et avoir un petit peu les images sur les descriptions qu'on vous fait.
Eh ben très bien. Avant qu'on se quitte, j'avais juste une petite reco de dernière minute.
Vas-y.
J'ai découvert quelque chose il n'y a pas longtemps. Tu connais le podcast Mensetsu ?
Ouais, parce que tu m'en as parlé.
Je t'en avais parlé. Oui, je t'en avais parlé à un moment. Donc, c'est un monsieur qui interviewe des expatriés au Japon français. Et donc, c'est plutôt un podcast conversationnel. Mais ils ont lancé récemment un truc que je trouve très intéressant. Et je pense que si vous aimez le Bureau des Mystères, vous allez aimer. Ça s'appelle la librairie Yokai. Alors, il y a juste un pilote à l'heure où on enregistre. Je sais qu'ils sont en train de préparer d'autres épisodes. En fait, le concept de cette émission-là, c'est de te présenter dans chaque épisode un yokai, donc ces esprits japonais, ces monstres et créatures japonaises aussi, parce qu'il n'y a pas que des esprits, il y a aussi des créatures. Et en fait, voilà, dans chaque épisode, je crois que ça va durer à peu près 40-45 minutes, il me semble. Enfin, le premier dure à peu près ça. Ils vont te raconter la légende et ensuite comment il a été adapté dans la culture pop, voilà. Comment y échapper, ce qui est quand même très important si tu tombes dessus. Donc voilà, le pilote est en ligne, moi j'avais beaucoup aimé, je te conseille à toi Charles déjà, parce que tu l'as pas écouté.
Non, j'ai pas écouté, ouais, c'est vrai.
Et je conseille aussi aux auditeurs d'aller jeter une oreille là-dessus, j'ai trouvé ça vachement bien. J'en avais parlé d'ailleurs sur mon Twitter perso, mais bon voilà, au moins j'en parle ici aussi.
Ben, très chouette reco, on va aller voir ça. Ça va être l'heure pour nous du coup de se quitter. Comme d'habitude, hein, le Bureau des Mystères et les séances du bureau, c'est un podcast Riviera Ferraille. Et à ce titre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, donc @BDM le podcast, sur notre page Facebook Charles et Mathias. Vous pouvez nous laisser des avis évidemment sur iTunes. Et du coup... On vous fait des gros bisous.
Ouais, des gros bisous et à bientôt pour un nouveau numéro du Bureau des Mystères et des séances. Parce qu'on reviendra sûrement, je pense.
Ben oui, on va essayer d'en faire un petit rendez-vous mensuel pour vous tenir au courant de cette actualité de plus en plus florissante du film d'horreur et de la série d'horreur.
Ouais, il se passe pas mal de choses ces temps-ci, c'est plutôt cool. Une bonne époque. What a time to be alive.
C'est ça.
Allez, gros bisous.
Allez, gros bisous.